la graine d'échafaud.
Ça commence mal. Non, mais attends, t'as pas ton micro.
Ah, pardon, on est là pour ça.
Non, t'as pas ton micro.
Mais...
voilà, là, t'as ton micro.
Oui. D'accord. On est là pour ça, sur Radio Pulsar.
Ouais.
Thomas et Hélène, ce soir.
On est un petit peu en retard.
Et on est un petit peu lâchés par ceux qui sont malades.
Voilà.
Et je ne dirais pas qui est la technique.
Je sais pas si c'est un compliment ou pas, ça.
Lecture.
Lecture. La gueule ouverte est virtuellement née le 28 avril 1969. J'étais dessinateur et chroniqueur à Rakiri Hebdo, payé pour faire de la subversion. Et dès le numéro 13, lassé de subvertir sur des thèmes à mes yeux rebattus, attendus, désamorcés d'avance et prenant mon courage à deux mains, j'osais parler d'écologie à des gauchistes, gauchistes entre guillemets. Nous étions alors quelques-uns à savoir qu'il y avait urgence et que cette urgence consistait en ceci. Faire coïncider la révolte instinctive viscérale de la jeunesse, que nous interprétions comme une révolte de la vie, face aux artifices mortels de la collusion pouvoir-savoir. Donc faire coïncider la révolte instinctive viscérale de la jeunesse avec ce que nous pensions être la réalité des vrais problèmes. Non, je n'étais pas le seul. Loin de là, mais j'étais seul à disposer d'un gueulophone avec toute liberté de m'en servir. Pour conduire à son terme cette nécessaire rencontre du gauchisme et de l'écologie, la faire déboucher sur le dépassement et le renouvellement, à la fois de l'écologie et du gauchisme, j'avais une tribune dans le seul journal parisien dont le rédacteur en chef ne soit pas un pourri, Dixit Wolinski. C'était une chance extraordinaire, et il aurait été très bête de ne pas en profiter. C'est ainsi que Harakiri Hebdo, Charlie Hebdo, qui n'était pas seulement le prolongement hebdomadaire de Harakiri, mais, j'en suis sûr, le seul prolongement historique authentique du grand éclat de rire libérateur de mai 68, devint bon an mal an le porte-voix français, disons européen, car le phénomène est unique, de la nouvelle gauche écologique. Gueuler ne suffisait pas. Très vite, des lecteurs m'écrivirent pour m'enjoindre de fonder, et plus vite que ça, un parti rousseauiste, destiné à regrouper les marginaux. Les marginaux, comme ils ont raison, n'ayant pas envie d'être regroupés, et surtout pas au sein d'un parti, quel que soit son isme, il y avait sans doute mieux que cela à faire.
Oh! Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girls should go walking in these spooky old woods alone.
Sheep suit on until still I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't.
C'était Sam the Sham and the Pharaohs. Alors je ne saurais pas trop quoi en dire.
C'est assez. Encore un CD qu'on t'a passé il n'y a pas longtemps.
Ouais, c'est Anthony qui me l'a passé. C'est dommage qu'il ne soit pas là.
Ah, c'est dommage.
Ouais,
c'est bizarre, c'est pas habituel.
C'est, en fait, le premier morceau de ce CD, c'est Ouléboulé. Ouléboulé, je pense que. Enfin, ça a été pas mal repris, je crois. Donc voilà. Et là, ce que j'aime bien, cette chanson, c'est une chanson sur le petit chaperon rouge et ça dit. Petit chaperon rouge, t'es vachement bien roulé. J'aimerais bien te reprendre dans mes bras, mais j'ai peur que tu crois que je suis un grand méchant loup. C'est vachement super. Et le texte que j'ai lu avant, c'était le premier édito de La Gueule Ouverte, donc un journal fondé dans les années 70, enfin en 71-72, un truc comme ça, par Pierre Fournier. Le premier numéro de La Gueule Ouverte sous la main, c'est extrait de Carnet d'avant la fin du monde, donc un recueil de dessins de Pierre Fournier, qui est mort en 73, qui est paru au Cahier Dessiné chez Buchet-Chastel, et qui est magnifique.
Comme tous les livres des Cahiers Dessinés chez Buchet-Chastel.
Ouais, là, il y a des super beaux dessins, il y a un texte assez long de la femme de Pierre Fournier, donc Daniel Fournier, qui a repris en main la Gueule Ouverte après la mort de son mari, d'ailleurs.
Et c'est pour ça que La Gueule Ouverte a continué quelques années voilà. Encore jusqu'aux années voilà. 80, non un peu.
Et donc Fournier, donc il avait commencé, lui c'était un dessinateur au départ. Il a fait deux livres chez aux éditions du Square. Il y en a qui s'appelle La Vie des gens et l'autre qui s'appelle Où on va, j'en sais rien mais on y va. La Vie des gens, c'est attends, je l'ai sous la main. Ah. C'est un recueil de dessins, de trucs, c'est une forme assez libre, c'est un truc qu'on... C'est marrant, je trouve ça assez moderne, moderne. Disons que c'est des choses qu'on voit assez régulièrement maintenant, et qu'à l'époque ça devait pas être si courant, et il y a des espèces de retranscriptions, de conversations qu'il entend dans les bars, de croquis, de gens dans les bars, il y a déjà, bien sûr, une vocation satirique aussi, sur certains sujets, et...
Quand on voit les extraits, enfin moi j'ai pas lu la vie des gens, je te vois juste le feuilleter, et je pense vraiment à Charlie Hebdo, bon, à la fois à Ciné, quand il y a les gros blocs de texte avec les dessins qui s'imbriquent dedans, mais aussi à ce que fait Catherine maintenant dans Charlie Hebdo, je trouve qu'elle est une des meilleures dessinatrices de Charlie Hebdo ce moment. C'est pour le côté croquis, plus scène, plus récit imbriqué, un ton qui se dégage. Je comprends pas pourquoi Pierre Fournier est pas plus connu, parce que c'est vraiment un très bon dessinateur.
Il a pas été, ces deux bouquins-là n'ont pas été réédités. J'attends peut-être qu'un éditeur s'y consacre. Actuellement, il y a juste le bouquin de chez Buchet-Chastel à ma connaissance. Et j'ai l'autre là, donc Où on va, j'en sais rien, mais on y va, qui est lui plus un recueil de textes finalement. Enfin, en fait, Daniel Fournier le dit dans le bouquin de Buchet-Chastel, c'est que à partir du moment où il a eu une rubrique régulière dans Charlie Hebdo, Nora Kiri Hebdo, puis à Charlie Hebdo, et puis c'est ça qui l'a amené à fonder La Gueule Ouverte, c'est ce qu'il dit dans l'édito. Et en fait, son activité de dessinateur finalement a été réduite à peau de chagrin, parce que il avait tellement de trucs à dire, et il était tellement dans une urgence qu'il écrivait quoi. C'est pour aller plus vite quoi. Et notamment dans La Gueule Ouverte, je sais qu'ils racontaient leur installation, je crois que c'est en Ariège, et ils retapaient eux deux un village, et ils essayaient de réinsuffler de la vie dans ce village en fait, en amenant des gens. Alors c'était la grande époque effectivement des communautés baba, etc. Sauf qu'on sent vraiment dans le bouquin de Buchet-Chastel que Fournier, c'est un c'est un pédagogue, quoi. C'est un mec.
C'est avant tout des convictions.
C'est pas un baba cool, quoi. Non. C'est vraiment un écolo pur et dur, dans le sens il a tout à fait conscience que ça va pas et qu'il faut faire quelque chose, quoi.
Ouais, il est un peu poussé par une nécessité absolue et plutôt que par un idéal
mythique. Ouais. Ou... c'est presque de la survie. Il le dit. Je peux lire, un truc. C'est dans Où on va, j'en sais rien, mais on y va. Alors bon, c'est paru aux éditions du Square. Je crois que c'est paru après sa mort d'ailleurs, parce que c'est préfacé par sa femme. Et oui, d'ailleurs, elle dit dans la préface que ce bouquin n'aurait pas dû exister. Enfin, s'il n'était pas mort, il n'aurait pas été fait comme ça. Et je vous lis un texte qui a dû paraître justement à la gueule ouverte. Pendant qu'on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s'engendrent les unes les autres, en répétant toujours la même chose, l'homme est en train, à force d'exploitation technologique incontrôlée, de rendre la Terre inhabitable, non seulement pour lui, mais pour toutes les formes de vie supérieures qui s'étaient jusqu'alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui s'esquisse, et que nous promettent ces cons de technocrates, ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l'œuf. La seule vraie question qui se pose n'est pas de savoir s'il sera supportable une fois né, mais si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort. Je continue pas, mais voilà, je trouve que j'aime bien ce début parce que c'est encore très actuel.
Oui.
Ça fait 25 ans, plus de 25 ans que ça a été écrit. Et d'ailleurs, on se dit. J'avais vu un truc sur internet, ça me fait penser maintenant. Excuse-moi,
je te coupe pas. Vas-y, fais un truc à l'âme. Moi aussi, ça me faisait penser à quelque chose. Mais...
ça me fait. En fait, pendant. Tu sais, il y a un ou deux ans, Lina a mis en ligne ses archives.
Tu as parlé de Dumont.
Ouais, René Dumont, voilà. Et j'avais vu comment ça s'appelle, la profession de foi télévisée, ou je sais pas
quand
comment.
Quand il s'est présenté au présidentiel.
Quand il s'est présenté au présidentiel en 74. Donc René Dumont, c'était je pense, pour moi, j'ai un peu dans l'idée, je connais pas bien ses écrits, mais c'est dans l'idée, c'est un peu le fondateur de l'écologie politique en France, en tout cas. Mmh. Il avait écrit notamment, il avait aussi écrit des bouquins sur l'Afrique, sur le fait que on était des salopards de coloniaux et qu'on avait saboté leur culture, etc. Quoi. Et etc. Faut pas dire etc. Ça fait un peu comme si c'était c'était des trucs élucidés, quoi. Enfin non. Et ben, c'est des bouquins qui sont importants. Et il y avait cette profession de foi télévisée. Donc j'avais vu sur le site de l'INA où en fait on voyait René Dumont qui était un vieux mec il était en soupule rouge
comme ça.
et ce qu'il disait c'était enfin c'est des trucs il me semble qu'à l'époque on l'a pris un peu pour un guignol, genre un peu ouais bon il est trop radical, il voit trop loin, et maintenant ce qu'il dit là dans ce truc là c'est presque tout, c'est presque admis partout, quoi.
Même voilà. Strauss-Kahn, je crois.
Voilà.
Vrai, ah bon, voilà.
Et Fournier, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire c'était le mec dans la gueule ouverte qui gueulait contre le nucléaire, contre ça, enfin.
Et ce qui est fou, c'est qu'ils disent aussi au début que dans Charlie Hebdo, les gauchistes, vous avez un peu de mal avec l'écologie, quoi. Enfin, ils disent aussi, j'ai fondé mon truc pour pouvoir en parler plus, parce que finalement, c'était un peu accessoire, ils préféraient taper sur les CRS et les curés, et dans la tradition, voilà. Et ouais, c'est assez. Enfin, je sais pas, c'est assez fou. Maintenant, c'est peut-être un combat plus admis. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'autres journaux. Aujourd'hui, il y a la décroissance. Il y a encore Charlie Hebdo qui a quand même beaucoup changé depuis l'époque de Fournier. Mm-hmm. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un mouvement aussi fort pour autant, quoi. Enfin, je sais pas.
Ben, on a l'impression que les problématiques sont là. Enfin, on les admet, tu vois.
Oui, mais c'est de plus en plus contraignante.
Mais c'est comme si on s'en foutait.
C'est non, comme non, si depuis qu'on est petit, on
non,
l'a
mais
entendu.
Tu vois ce truc sur les OGM, là, le fait qu'on essaye de faire passer une loi. Tu
que
sais,
personne ne veut.
Je trouve
la culture d'OGM en plein champ, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Enfin, je pense qu'il y a encore des gens qui se battent contre.
Oui, il y a encore des gens qui se battent contre, mais disons qu'on a l'impression que ça devrait être évident, et qu'en fait, non, on a toujours ce truc. Bon.
Mais peut-être qu'à notre époque, sans vouloir faire de grandes phrases, mais on arrive plus à un moment où les conflits vont se préciser aussi. C'est-à-dire que le discours sur l'écologie de la planète comme un tout est quand même plus relayé maintenant, je pense aussi, avec l'information mondiale, avec il y a des émeutes de la faim en Haïti et ailleurs, et on commence à se dire qu'il y a un problème global. Et même, on commence à le dire même dans les sphères du pouvoir, et on commence à voir que ce pouvoir-là n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en désole, il ne fait pas grand-chose pour arrêter des... Parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, parce que peut-être le pouvoir est ailleurs que dans le politique, quoi. Enfin, je pense que peut-être plus maintenant, on arrive à un moment où la contradiction est...
Où le combat devient possible, presque, tu veux dire
Presque, parce que voilà, on est le nez dessus, quoi. Enfin, bon, après, peut-être que c'est un peu utopique, tout ça.
Non, pas du tout.
On n'est pas des moutons ? On n'est pas des chiens ? On n'est pas des... on n'est pas des amateurs ? Thank you.
Et le soleil, c'est pour nous faire la joue vermeille. Printemps, c'est la moindre des choses. Un hors-d'œuvre en pétales de rose. La neige, c'est pour faire joujou entre deux whisky. C'est pour nous. On n'est pas des chiens. On ne traverse pas entre les clous, comme les mémères et leurs toutous. On est très anticonformiste, on aime le risque, on aime le twist. On ne fera rien comme maman jusqu'à l'âge de 25 ans. On n'est pas des moutons. Femme des amis, c'est sacrément bon à toucher. On la rend le surlendemain, on la remet dans le droit chemin. On lui fait un brin de morale, faut avoir un peu d'idéal. On n'est pas des boucs. Tu me donnes la moitié de ton manteau, je t'étrangle avec aussitôt. Pour te prendre l'autre moitié, c'est ce qu'un savant réputé nommait la survie des plus aptes. C'est le plus malin qui s'adapte. On n'est pas des pigeons. On a la mèche ensorcelante, on a la lippe désarmante, on insulte des malabars, bien à l'abri dans nos jaguars. On est la France de demain, vous avez deviné. Enfin, on n'est pas des chiens, on n'est pas des moutons, on n'est pas des boucs, on n'est pas des pigeons, on est des hommes.
On n'est pas des chiens par Brigitte Fontaine, donc sur l'album comment ?
Micro, merci.
Non, pas tais-toi.
Sur l'album Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, 12 chansons d'avant le déluge, chez Jacques Canetti, qui n'est plus disponible, mais empruntez-le donc à la médiathèque. Et c'est pas la première fois qu'on passe cette chanson d'ailleurs, mais on
est bon
bien.
T'es sûr ?
Ouais, la dernière fois c'était par ailleurs quand on a parlé des femmes et du féminisme pour le 8 mars.
Ah, d'accord. Et sur le même disque, il y a notre générique d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment un très bon disque.
Et juste aussi pour dire que la gueule ouverte s'est terminée depuis un petit moment. Je sais qu'il y a eu une émission de France Culture sur la gueule ouverte. On en a parlé la dernière fois, je crois, la fabrique de l'histoire.
Ouais.
Ils ont fait une série sur la presse et il y avait eu un truc sur la gueule ouverte où on entendait justement Daniel Fournier, puis les anciens d'Alain Kiri. Voilà.
Ça donne un peu d'espoir tout ça. Mmh. On reparle vite fait aussi du chômage à l'autonomie conviviale.
Ah oui, parce que depuis la dernière fois, je l'ai lu.
Voilà. Oui, on en parle à l'antenne et après on se le prête. Et donc, toi, qu'en as-tu pensé, Thomas, de ce livre d'Ingmar Grandstedt ?
En fait, là, inversement, j'ai trouvé que... Comment dire ? Enfin, disons que tout ce qu'il dit, c'est vachement bien.
C'est-à-dire tout ce qu'il dit, en gros, c'est qu'on va
Ce qu'il dit, c'est au lieu de bosser comme des cons dans des usines ou dans des bureaux, ou de se faire traiter comme de la merde et de se faire renvoyer dès qu'on n'a plus besoin de nous, on pourrait travailler moins ou travailler juste ce qu'il faut. Et puis, à côté de ça, pouvoir être autonome au niveau de la bouffe, au niveau des vêtements, au niveau de...
De l'habillement, de la santé.
Ce qui est... Là, c'est pareil, je trouve que ça résonne encore aujourd'hui, quoi. C'est marrant parce qu'il écrit ça en 80, on a l'impression que ça vient après toutes les années 70 où justement il y a eu les communautés, tout ça. Et tu vois, Pierre et Daniel Fournier, ce qu'ils ont essayé de faire dans leur village, c'était ça aussi, c'était un truc autonome. Je sais plus, il en parle un moment, ils ont la machine à laver en commun, la bagnole en commun, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des trucs de. Je sais pas comment dire. C'est des trucs de survie, quoi. Mmh. Après, ça va devenir peut-être des fois des règles de survie. Ce que j'aime bien, c'est que lui, il en parle de manière assez tranquille. Il y a un côté
pragmatique.
Comme tu disais, ouais, voilà, que sais-je, ou un côté, voilà.
Alors, on va s'organiser, voilà. Petit 1,
comment faire pour ta.
C'est assez rigolo.
Et ouais, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est que ça va. Après, j'étais un peu frustré. C'est un livre assez court. Et il fait pas mal de renvois à d'autres textes. Donc du coup, ça donne envie de lire ces autres textes, effectivement.
Notamment Ivan Illich, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai vu citer plein de fois.
Ouais, voilà.
Qui est visiblement un des premiers théoriciens de l'écologie politique aussi.
D'accord.
Avant René Dumont, je crois. qui est un des premiers à dire que voilà, les savoirs, je crois que c'est lui qui a parlé du terme des savoirs vernaculaires, donc ce qu'on peut faire, refaire soi-même quand on a oublié de le faire, quand la société nous voilà met de la médiation là-dedans et nous force à acheter des choses qu'on peut faire, et qu'il faut se réapproprier les savoirs vernaculaires pour se nourrir, pour s'habiller, pour se soigner. Et là, je crois qu'il y a un gros passé derrière. Mais
Ouais, puis j'aime bien comment il en parle. Enfin, c'est ça, l'autonomie conviviale, quoi. C'est-à-dire que si on se groupait un peu plus, enfin, si on mettait un peu plus nos moyens en commun, on y trouverait aussi du plaisir. Enfin, il dit aussi, c'est pas si angélique que ça. Il dit, effectivement, forcément, c'est une vie en société, donc ça peut aussi, il peut y avoir des tensions et des choses comme ça. Mais bon, après, c'est.
J'aime bien ce qu'il il le nie pas. Après, on aurait pu faire une encyclopédie là-dessus sur justement plein de gens qui sont revenus des communautés ou qui y sont encore, disent voilà les difficultés, petit un, on tombe là-dessus. Lui, pas trop. Il dit oui, il faut pas faire d'angélisme. Genre quand on met des machines en commun et qu'il y en a une qui casse, enfin il le dit pas comme ça, mais c'est sous-entendu. Qui va la réparer? Bon, bah ça peut être source de conflit, quoi. C'est y a pas non plus d'angélisme dans le côté partage du savoir ou découverte, tout ça.
Non, mais
malgré ça, il passe au-dessus. Disons qu'il ne s'y arrête pas. J'ai l'impression que dans le discours ambiant par rapport à tout ce qui est autonomie individuelle et collective, parce que là, c'est un individuel qui ne s'arrête pas à l'individuel, qui dit on peut revenir chacun à son échelle à une autonomie, mais on a besoin des autres. Et donc, il faut s'organiser. Et c'est cette partie du discours qu'on entend de moins en moins de nos jours, quoi.
Ouais, ça parce que la propagande dominante nous parle d'individualisme en fait. Enfin, nous la publicité.
Liberté.
On caricature souvent ces choses-là en disant ouais, mais le communautarisme ça marche pas, le communisme, mettre les choses en commun ça marche pas, etc. Il y a toujours des emmerdeurs, etc. Bah oui, mais non. Enfin, c'est justement l'idée, c'est que même s'il y a des emmerdeurs, enfin même si ça crée aussi des conflits, il faut les surmonter parce que c'est vrai que au bout d'un moment, à quoi bon continuer à produire autant pour créer des besoins de plus en plus. Enfin, finalement, c'est ça, c'est que la société actuelle crée des nouveaux besoins, des besoins de choses qu'on n'a pas, de choses futiles en fait. La publicité nous confronte toujours à ce genre de choses.
Et à quoi bon travailler encore plus pour des choses dont finalement on n'aurait pas besoin, alors qu'on pourrait avoir plus de temps libre si on se débrouillait plus tout seul.
Voilà, c'est ça.
Enfin, plus avec son voisin. Bah ouais, c'est quand même des bonnes idées tout ça. Bon, certes, ça demande un peu d'énergie à mettre en œuvre.
Bah, mais finalement, ce qu'il dit, c'est que au lieu de bosser 35 heures et puis d'acheter ce dont tu as besoin.
Ah, l'objectif, c'est 23 heures, moi ça me plaît bien ça.
24
heures, ouais.
C'est déjà pas mal, 24 heures, travail, ça fait deux tiers temps.
De travail aliéné, on va dire.
Ouais.
Pour quelqu'un d'autre pour gagner des sous, et puis le reste, on se débrouille.
Et encore, l'idée, c'est quand même que ça décroisse encore, quoi. C'est-à-dire que.
De moins en moins besoin.
Et que surtout, il parle aussi de l'industrie, c'est-à-dire qu'on arrête les usines, ça revient à l'an 01 justement de GB dont on a déjà parlé.
On arrête tout, on arrête l'usine,
disons que c'est juste, on arrête tout et on essaie de voir ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Voilà.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'Ingmar Grandstedt, il arrive après ça, quoi. Il dit voilà, on sait un peu ce dont on n'a pas besoin. Ouais. On va s'en rendre compte encore plus. Donc, ouais, pas mal. Et dans la série un peu plus actuelle. Continuons sur notre lancée
collectif
de ces utopistes qui font des choses. Hier soir, il y avait une soirée spéciale au cinéma Le Dietrich. C'était une seule soirée, tant pis si vous n'y étiez pas. C'était le lancement de la revue La Famille Digitale.
Oui, de toute façon, si vous n'étiez pas, vous pouvez toujours acheter la revue.
Vous pouvez toujours acheter la revue parce que la plupart des films, les films présentés hier et les documentaires sonores sont sur cette revue qui est une revue DVD. Et ma foi, ça m'a vraiment bien botté. Je connais l'existence de cette revue depuis longtemps, mais
ils ont mis du temps à la coucher, surtout.
Oui, aussi. Donc, en gros, pour résumer le projet, puisque Ben n'est pas là pour nous en parler.
Ouais, c'est marrant, ça. Ben n'est pas là alors qu'on parle de La Famille Digitale.
Curieux. peut-être qu'il n'assume pas. le projet, c'est. Enfin, je sais pas, je vais peut-être en parler.
Ouais,
mal, mais c'est, je crois, une petite palanquée de réalisateurs de documentaires qui ont eu envie de présenter des créations documentaires, enfin de cinéma du réel.
En fait, La Famille Digitale s'est fondée. L'association La Famille Digitale s'est fondée là-dessus. C'est-à-dire, c'est un groupement de jeunes auteurs documentaires, de réalisateurs, qui sont un peu comme peuvent faire des fois des auteurs de bande dessinée, par exemple, qui se groupent pour faire une maison d'édition, comme par exemple l'association. Et donc, ils ont fait ça. Ils sont groupés en disant voilà, nous, on va créer nos moyens de production, etc. Donc, la revue est prévue depuis le début, depuis leur création. Ça fait 3-4 ans, je crois, qu'ils ont créé l'association. La revue était prévue déjà depuis un bon moment, mais bon, il se trouve que ça leur a pris du temps parce qu'il y avait des questions de droit. En plus, dans cette revue, il y a des films étrangers, donc il a fallu aller aller chercher, voyager, tout ça, enfin rencontrer
c'est
les gens.
C'est étonnant, donc, mais c'est que c'est pas une revue d'auto-édition parce qu'ils ont été chercher des films très différents et de plein de coins, différents et sur des thèmes aussi. Donc il y a vraiment. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, pour un grand public qui découvre, qui ne connaît pas spécialement le documentaire à part ce qu'on peut voir à la télé ou au cinéma de temps en temps, il y a des, enfin voilà, des films dans leur contexte sur le thème de la frontière, enfin border, pardon, les thèmes border.
Non, mais c'est en bilingue. Ouais.
Thème border. Et voilà, après il y a une pratique atelier, film d'atelier un peu plus expérimentaux sur le, et puis labo sur le thème du jeu. Donc ces trois thèmes étaient développés hier soir dans la soirée par des extraits, enfin quelques films issus de la revue.
Mais il y avait quelques. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que la revue continue sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a un prolongement sur Internet. Donc je crois que tout ce qu'on a vu hier, c'était soit dans la revue DVD, soit disponible sur Internet.
En bonus online. Donc, il y a un petit livret avec aussi qui présente chaque film. Et donc voilà, il y a des créations qui sont de jeunes réalisateurs, notamment de Poitiers, comme Mondeux qu'on a pu voir hier, de David Serin. Et puis notamment un film québécois, moi j'en parle parce que c'est vrai que quand même il m'a pas mal marqué, présenté assez sobrement en disant voilà, c'est un film québécois un petit peu décalé, on vous laisse voir, ils nous ont dit quand même c'est un film qui a été réalisé en 85
et qui est sorti en 93 parce qu'il a été censuré. Enfin, voilà. on comprend un peu pourquoi. Oui,
quand
c'est quand
on
même
voit le film, on comprend un peu
c'est
pourquoi.
Un petit peu subversif quand même.
On passe un petit extrait pour voir un petit peu.
Attention, c'est du québécois. C'est,
oui,
c'est
oui, un écoutez peu... bien, il y a de l'accent.
Non, c'est pas ça. Oh,
c'est
décidément.
La plage 3.
À nous tous, applaudissons-nous. We are
ça, c'est la plage 4.
Ouais. Et tu voulais laquelle ?
La 3.
La 3 ouais. Attends.
Faut tenir le bouton.
C'est celle-là, je crois. Ouais ?
C'est ça.
Toute la rapace est là. Des boss pis des femmes de boss, des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier, toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité, des charognes à qui on élève des monuments, des profiteurs qui passent pour des philanthropes, des pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles, des bonnes femmes au cul serré, des petites pilotes qui sucent pour monter jusqu'au top, des journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juge à 100 000 par année, des liches-culs qui se prennent pour des artistes. Toute la gang est là, un beau ramassis d'insignifiants, chromés, médaillés, cravatés, vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher, sont riches puis sont beaux. Affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches puis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent.
Voilà.
Et ça balance, hein, québécois.
Oui, donc c'est un film, alors c'est, je crois que c'est à l'occasion de l'anniversaire de quelque chose.
C'est le Beavers Club.
Le Beavers Club, voilà, c'est une espèce de comme le Lions Club. Comme
je crois
le...
que c'est même pire, je vais dire pire que le Lions Club. Le Lions Club, il a une vocation, n'est-ce pas, philanthropique, tout ça, culturel. Je crois que le Beavers Club, c'est une sorte de G8, enfin en tout cas un think tank, comme on dit. Un réservoir de penseurs assez fort et, au Québec qui regroupe des anciens.
Au Québec ou parce que c'est des Anglais quand même qu'on voit.
Ah oui. C'est vrai qu'il est, le réalisateur est québécois.
Le réalisateur est québécois, mais je crois
Canada,
que c'est des gens, c'est des c'est gens du pouvoir Québec, oui. canadien. Quoi.
Oui, oui,
enfin,
oui.
pas du pouvoir, c'est des financiers. Quoi.
Et industriels. Enfin, ce qu'il dit, quoi. Des juges, des ministres, des gens. Il cite à un moment dans le film des exemples de gens qui sont passés par le gouvernement puis qui ensuite ont été embauchés par tel film. Ministre de la communication embauché par machin. Enfin. Ouais. Oui, voilà, les vrais, des vieilles ganaches, mais ceux qui ont le pouvoir et qui chaque année célèbrent, en gros, ils célèbrent quoi ? Ils célèbrent la colonisation anglaise du territoire canadien. Et la colonisation anglaise par leurs aïeuls qui leur ont permis d'avoir le pouvoir et de le garder. Ma foi, ils en sont très contents. Et ils font une grosse fête déguisée en vieux colons avec des postiches, des favoris.
Ouais.
Et donc le film montre ça.
Ce qui est marrant, c'est qu'il est basé sur le film de Jean Rouch.
Voilà, l'introduction de ce film, c'est une citation de Jean Rouch. Du film de Jean Rouch.
Ah, zut. Les Maîtres Fous. Voilà. Les Maîtres Fous de Jean Rouch, qui montraient une communauté, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, au Ghana, ouais, les Hanouka, qui était une. En fait, c'est pas spécialement une secte. En fait, c'est une secte. Enfin.
Il dit secte, mais on comprend que c'est pas vraiment une secte parce que
c'est pas présenté comme ça chez Jean Rouge. Enfin, c'est des gens du peuple. En fait, là, ils sont balayeurs. Je crois même ceux qu'on les voit au début. Ou non, ils creusent des tranchées dans les rues. Enfin, c'est des cantonniers. Mmh. Voilà, des cantonniers. Et ils se réunissent le week-end et ils parodient le pouvoir, quoi. Ils boivent une espèce de substance qui les rend à moitié fous. Enfin, ils ont les yeux révulsés, tout ça, machin. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une espèce de représentation théâtrale de parodie du pouvoir. Alors, il y a un général, un président, etc.
Ils font des caprices. Leurs dieux sont la femme du gouverneur, voilà. Le médecin, etc.
Voilà, c'est un peu. Ça fait penser aussi à des choses du vaudou aussi.
Et puis à l'inversion aussi des rôles du carnaval, de la fête du carnaval.
Voilà, c'est ça aussi. Fous, voilà,
ceux qui sont en bas prennent la place des puissants, ouais. et vice versa. Ils jouent, ils choisissent des gens qui sont plus puissants pour faire des esclaves, quoi. Enfin, c'est une sorte de révolte symbolique. Et lorsqu'il met ça en parallèle, justement, comment il s'appelle
Claude Falardeau.
Oui, c'est ça, Pierre Falardeau.
Pierre Falardeau
commence par cette citation donc du film de Jean Rouge. Enfin, citation, il montre un bout du film et ensuite dit bah voilà, au Canada, on a le Beavers Club qui lui ne fait même pas semblant. Ce sont des puissants qui jouent le rôle de puissants et qui célèbrent la colonisation. Et donc c'est aussi puissant que l'extrait qu'on a pu entendre. C'est vrai qu'on comprend après avoir vu le film, vu qu'on voit à la tête des gens qu'il a lui-même filmé pendant cette réception. On aurait fait cette réception mondaine où ils ont des têtes pas possibles, ils sont en train de manger, de se gausser, de. Puis ça, en plus, ça date de 85, donc ça a pris 20 ans dans la gueule, c'est pas mal. Ouais. Avec les. Enfin, oui, voilà, c'est kitsch, quoi. C'est kitsch et pitoyable et en même temps.
En plus, je trouve le ton qu'il a, c'est. On entend peu ça au cinéma, quoi. Enfin, c'est vraiment du pamphlet, un truc. C'est
oui,
super
c'est plus que révolté. Enfin, on a même pas envie d'employer le mot révolte, parce que surtout en ce moment, des 40 ans de 68, on entend à toutes les sauces. Mais quand on entend Pierre Falardeau dans son film, on se dit, ouais, c'est. Il est révolté, mais on a vraiment un truc infect sous le nez. Et en même temps, c'est assez jouissif, quoi.
C'est le jeu de massacre, quoi. C'est vraiment. Bon, il y a ce film là, il y a aussi alors dans ceux qu'on a vu hier soir, il y avait Pour vivre j'ai laissé, moi j'ai pas vu, toi tu l'as vu?
Oui, j'ai vu plusieurs fois même, c'est un documentaire belge qui effectivement, alors qu'il y a eu un beau trajet dans les milieux, une belle carrière, enfin était beaucoup diffusé dans les milieux associatifs, militants, donc on peut le voir à plusieurs occasions dans des festivals ou lors des soirées de soutien, notamment de soutien aux sans-papiers, Dieu sait si c'est encore une question d'actualité. Là, c'est un film qui a été tourné par des résidents du Petit Château, qui est un centre d'hébergement pas à Bruxelles, mais en Belgique, et où la réalisatrice a confié la caméra à des gens qui, voilà, des sans-papiers, ou en tout cas des demandeurs d'asile, parce que, pas forcément sans-papiers, mais demandeurs d'asile, de cet endroit-là. Donc on voit des gens qui viennent de Bulgarie, un autre, je sais plus de quel pays il est, parce qu'il est, chacun met un peu un petit dispositif, hein, s'empare de la caméra, et donc choisit une façon de parler de sa condition, soit présente, soit passée, mais en général plutôt présente, de ce que c'est de demander l'asile, d'être astreint à toutes les contraintes que voilà, d'horaire. Il y a un mec, oui, il est togolais, il montre sa carte, c'est très fort comme dispositif, il a un petit peu de fil de fer, ce qui fait que sa carte de résident avec sa photo du centre d'hébergement, et elle est toujours devant, en plein milieu de l'image, dans le champ. C'est-à-dire qu'il la balade
devant la caméra.
Voilà, devant l'objectif de la caméra, il la balade partout et il dit je montre ma carte et on me donne des draps, je montre ma carte, on me donne 3,60€ d'argent de poche pour la semaine, je montre ma carte, on me donne de la nourriture, je suis le numéro tant, etc. Et après, on le voit aussi, lui, en train de parler avec un coiffeur qui lui coupe les cheveux et qui est lui-même un ancien demandeur d'asile, qui a réussi ensuite à avoir des papiers, qui raconte qu'il a connu la même galère que lui, c'est pour ça qu'il est devenu bénévole dans ce centre, etc. Enfin, c'est vraiment un film assez fort, parce qu'il joue pas du tout sur le côté larmoyant. À un moment, on voit une jeune bulgare adolescente qui se la joue aussi un peu rebelle. Enfin, je dis qu'elle se la joue, elle se la joue pas, elle dit vraiment ce qu'elle a sur le cœur et elle a des choses à dire, quoi. Et en même temps, elle est ado et donc on sent qu'elle aime bien la caméra, donc c'est vraiment chacun qui a une approche très différente de ça. Et voilà, on découvre des choses, et du ressenti, mais aussi des éléments complètement, j'ai envie de dire, pragmatiques sur la réalité d'un centre de demandeurs d'asile, puis des mouvements de soutien ou des espérances, enfin. Ouais, c'est très fort, c'est pas du tout tiré.
Non, parce que ça j'ai pas vu, mais ça rejoint la partie
sonore.
Non, c'est pas la partie, je sais plus laquelle. En fait, il y a des films de collectif. Donc il y a un collectif qui s'appelle Sans Soleil et qui font des films en super 8 avec du son par-dessus, en fait. Et en fait, les films sont signés des gens qui sont dans, enfin, Je sais pas, je pense qu'ils font des ateliers en fait avec aussi, des gens. Oui. Et donc hier soir, on en a vu un, c'était le film à ma mère, qui est. Où c'est un...
De Mohamed Ramla.
Ouais, Mohamed Ramla, donc qui, on entend sa mère sur le film, mais.
Qui s'adresse à lui.
Et il y a deux autres films où il y a une femme turque qui parle des tulipes, je crois, et il y a une femme australienne, je crois. Et donc elle parle, tous ces gens-là parlent aussi de déracinement, quoi. La mère de Mohamed Ramla, apparemment elle était française, mais s'est mariée avec un Algérien. Donc elle a été vivante en Algérie, mais elle a été malheureuse, etc. Enfin, et ils sont assez forts aussi, ces films. En plus, ce qui est pas mal, c'est le décalage, en fait, le fait que ce soit filmé en super 8 muet et qu'il y a un son par-dessus. C'est assez beau aussi.
Ouais, et puis c'est assez fort parce que c'est des personnes qu'on a quand même assez peu l'habitude d'entendre. On va dire des gens qui ne confieraient pas la caméra spécialement parce que même pour une émission de télé, ils sont pas vendeurs, quoi. Tu vois, c'est des gens qui ont peut être chance dans la vie. Ce que dit la mère du film à ma mère, c'est bah, je te souhaite quand même, j'espère que je t'ai un peu protégé, mon petit, pour que t'en baves moins. Et puis tout de suite après, elle dit quand même qu'il est en CAT, que même il a pas pu continuer le CAT parce qu'il est trop gros, qu'il avait des problèmes aux jambes et tout. Ouais, c'est assez trash comme vie. Enfin, à la fois, ça fait pas envie, et en même temps, elle parle quand même de sa vie à son fils, et on est dans une intimité, quoi. Et en même temps, ça a été fait avec, je pense, quelqu'un d'autre qui était dans la pièce quand ils ont filmé. Et puis, ça a été fait consciemment.
De toute façon, c'est marqué à la fin, c'est encadré par les gens du collectif, etc. Ouais. Donc,
Mais je trouve qu'on se pose pas les mêmes questions d'habitude, justement, de un peu, comment on dit, sensationnalisme ou voyeurisme, des choses comme ça, pas du tout, quoi. C'est vraiment sur une corde raide, je trouve, mais très réussi. Enfin, moi, j'ai vu que celui-là dans la série des Sans Soleil. Mais vraiment assez réussi. Et effectivement, bon, c'est aussi le thème de la frontière qui est développé dans la famille digitale, le premier opus de la revue, là, dans les DVD et dans les documentaires sonores. Mais je crois que c'est un peu un des premiers thèmes auxquels on pense, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu le déracinement et le fait de quitter un pays, de quitter une famille, ont forcément envie de dire des choses à dire, quoi. Il y a des documentaires sonores aussi qui parlent de ça, du passage de la frontière. Qui sont très forts, quoi. Une dame qui, enfin, surtout une dame, je sais pas de quelle nationalité, qui parle du passeur et des sentiments qu'on peut éprouver quand on est un clandestin confié dans les mains d'un passeur. C'est très fort, quoi. C'est très simple, mais. Voilà. Beau travail. Nous sommes émus.
Donc, vivement le numéro 2. Enfin, faut déjà qu'on regarde tout ce qu'il y a à voir.
210 minutes de film sur cette DVD de la famille digitale.
Plus le site de la famille digitale. Donc, c'est www.lafamillesdigitales.org. Et on leur souhaite de continuer toujours aussi bien. D'ailleurs, ils font des films aussi. Enfin, ils éditent aussi des films en DVD, hein, donc que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver la revue et les films, en particulier au Feu Rouge, je crois, à Librairie Feu Rouge à Grand Rue.
Et chez Gibert.
Et chez Gibert, voilà.
Et puis peut-être ailleurs aussi.
Peut-être ailleurs.
Dans les festivals.
Voilà.
Est-ce qu'on peut se faire une petite minute d'autocongratulation pour finir sur une citation de Pierre Fajardeau? C'est la piste 4 du MD.
Ah bah ouais.
Parce que c'est la vraie autocongratulation.
C'est bizarre, hein, quand je mets le MD, c'est caverneux.
Ça marche ou pas? Un extrait de Pierre Fajardeau, un discours à la soirée du Beavers Club. Bon, peut-être qu'on l'entendra en fin d'émission, parce que là, ça ne veut pas, puis alors surtout, ça commence à faire des bruits désagréables.
Ah, pardon.
Ah, c'est pas ça.
Attends, je remets au début. Je remets au début. Ni 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 ni.
We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Good evening, bravo. Good night.
Et voilà.
You are as magnificent as I think I am.
As beautiful.
As beautiful. Vous êtes aussi beau que je pense que je le suis, c'est ça?
Non. Oui.
Vous êtes aussi beau que je pense l'être.
Voilà.
Waouh.
Ça, c'est pas mal.
Donc, c'est les gens du Beavers Club. C'est le président, je crois, du Beavers Club.
Le président du Beavers Club, ce fameux think tank canadien, wow, qui en prend pour son grade dans le fabuleux film de Pierre Fajardeau. Garden Party?
Enfin. Je suis nul à la technique. Ouais.
On était des milliers au barbecue de l'Élysée, tous de blanc vêtus, toutes en dos nus, et les gens se baignaient dans dans des bains de champagne. Les gens se caressaient sur des tissus pagnes. Il y avait Frank Sinatra, Madonna et Jean 23, Gershwin au piano et Yoko Ono. Il y avait Woody Allen, il y avait Eminem, Elvis Presley, Charles traînait. Ce que je faisais là, je ne le savais pas. On était des milliers, barbecue de l'Élysée, et on faisait l'amour. C'était très glamour, mais au bout de la nuit, je marchais dans Paris. J'ai rencontré un gars et j'ai raconté tout ça, qu'il y avait Françoise Hardy avec Lolo Ferrari, mais qui j'ai embrassé, j'ai déjà oublié. Ce que je faisais là, je ne le savais pas. J'ai raconté tout ça et je suis rentré chez moi.
On a entendu la fin de la chanson de Catherine ?
Ben ouais.
Faire caca ? Ah bon, ça va. Donc c'était Catherine, 8e ciel. Et oui, le barbecue de l'Élysée.
On a entendu la fin,
mais j'ai bien semblé que non, mais on était en train de discuter. Non, mais la chute est tellement fabuleuse. Mmh. Catherine. Donc voilà, un CD de chez Barclay, n'est-ce pas ? On est là pour ça, parler sur Radio Pulsar, parler des petites maisons d'édition indépendantes et des distributeurs indépendants comme Barclay. Oui, on est quand même là pour parler aussi de choses pointues et de qualité, notamment en bande dessinée. Mm-hmm. Si on parlait de The Akmanovalti Library,
ouais.
Très cher, en VO. Donc,
Ah, c'est moi qui l'ai, pardon.
Oui, mais c'est pas grave.
Je faisais des grands signes. Oui, alors The Akmanovalti Library, donc c'est un. C'est une publication relativement régulière. Je crois qu'il en fait quand même une ou deux par an. Hein. Il est quand même assez constant. Qui est plutôt assez connu maintenant au niveau dans le milieu bande dessinée, puisqu'il y a eu le gros volume qui est paru chez Delcourt qui s'appelle
Jimmy
Corrigan, le garçon le plus intelligent de la Terre. Et donc était le Jimmy Corrigan est paru dans Acme Novelty Library se présente un peu comme une revue un peu de faite uniquement par un auteur. Donc un comics, effectivement, c'est comme ça qu'on dit en américain.
Et cet auteur c'est
Chris Ware.
Ah, ouais,
Chris Ware. Ouais. Et qui est une espèce de virtuose, c'est assez fou, quoi. C'est-à-dire qu'il maîtrise absolument tout de sa publication, quoi.
Il décide de tout.
Décide de tout, et en plus, tout est d'une qualité à la fois littéraire, dans le dessin, dans les mises en page, c'est complètement novateur, et même dans ce qu'il raconte, c'est très particulier, en fait. C'est très. Jimmy Corrigan, par exemple, c'est un espèce de personnage un peu, comment dirait, veule, je sais pas, ou un espèce de pauvre type, un peu, quoi, complètement lâche, complètement dominé par sa mère, il aime bien les personnages comme ça, un peu pathétiques, quoi. Mmh. Et en l'occurrence, là, avec ce dernier numéro, le numéro 18, je trouve qu'il sort un peu de ça, en fait. Je trouve qu'il y avait un côté dans Jimmy Corrigan, c'est le personnage irrécupérable, enfin.
Moche, bête.
Ouais, ce serait un bouquin, il te tomberait des mains, quoi. Enfin, mmh.
C'est un bouquin,
je veux dire le personnage lui-même et puis il a d'autres personnages qui sont un peu plus fantaisistes. Il y a un personnage de cosmonaute qui va dans l'espace mais qui est en fait une sale brute qui tue tout ce qu'il voit. Il a deux copains collectionneurs là, Shalky White et je sais plus comment il s'appelle, et qui sont pathétiques au possible. Enfin, c'est des collectionneurs et on a l'impression qu'il, je pense que lui doit être un peu comme ça. Il analyse très bien en fait ce que ça peut être d'être un collectionneur, mais là en plus c'est des comment on dit en américain, c'est des nerds quoi,
des mecs qui parlent à personne, qui sont obsédés par leur truc,
qui pensent, il y en a un qui est tout le temps en train de baiser l'autre en fait, de lui échanger des trucs qui ont pas de valeur contre des trucs mais enfin en même temps leur valeur elle est complètement
c'est lui qui l'a créé,
c'est dans la tête quoi, enfin ils sont pathétiques quoi. Mais sauf que justement il y a un des deux collectionneurs qui à un moment se marie et a des gamins du coup c'est un peu comme le passage à l'âge adulte, il abandonne complètement toute idée de collection, sauf que l'autre continue, persévère dans cette voie et devient une espèce de gros porc dégueulasse. Voilà, dans les deux numéros d'avant il avait fait l'enfance de ces deux personnages là, ces deux collectionneurs là, et il y avait déjà un côté un peu plus tendre, lui-même apparaît en tant que personnage, en tant que prof d'art plastique je crois. Et il y avait la sœur d'un des collectionneurs, la grande sœur, on comprenait qu'elle était un petit peu un peu seule quoi. Ils arrivaient dans une nouvelle ville, donc il y avait tout un truc sur l'adolescence qui était pas mal, je trouvais. Et là, alors j'ai cru au départ que c'était le même personnage
de la sœur.
Ouais. Elle se ressemble en fait. Hein, donc je sais pas, peut-être que parce qu'il a l'habitude justement dans ses comics de faire des allers-retours entre le futur, le présent, passé, le présent en tout
un
cas.
Un peu comme dans une série télé finalement, voilà, ouais. Où il y a des rajouts, des avant, des après, des personnages secondaires
ouais,
à qui
ça.
On.
Et là, ce personnage dans le numéro 18 là est particulièrement touchant.
Ah, une jeune fille, je sais plus son prénom.
Pas si on sait son prénom. Ça me dit rien, ouais.
Qui commence par parler de se suicider dans la première
ouais,
page.
On sent qu'elle a une vie pas passionnante. Elle est fleuriste.
Elle a fait une école d'art, mais elle travaille dans une boutique de fleurs pour gagner sa vie. Plutôt.
En plus, elle va tous les jours au boulot. Elle a une vie complètement pépère. Et il faut dire aussi qu'elle est handicapée, c'est-à-dire qu'elle a une jambe en moins, dont on saura pas.
Un tibia en moins finalement.
On saura pas dans ce numéro pourquoi.
Si on sait qu'à un moment c'est un accident, il y a un flashback où elle est petite, je sais pas quoi, elle tombe.
Ah oui, c'est vrai.
Ce petit passage-là, très court.
Et puis après elle parle de toutes les fausses jambes qu'elle a eues.
Oui.
C'est ça, ouais.
Son histoire avec les fausses jambes. C'est un peu Captain Ahab.
On est quasiment tout le temps dans la tête de ce personnage. Il y a ses rêves. Ses souvenirs, donc elle est sortie avec un mec qui l'a quitté. C'est super touffu en plus. C'est des cases qui sont super petites. Il y a plein de textes, mais c'est passionnant.
Le texte
vraiment.
Se développe de partout.
Bien,
le récit introspectif, c'est limite du Proust. Quoi. Moi j'exagère à peine.
Non, mais il y a ce côté-là qui est vachement agréable d'une pensée qui passe d'un truc à l'autre par association d'idées. À la recherche du temps perdu, que j'ai pas lu.
Moi,
mais je sais
partie,
que ça fonctionne un peu
ça
comme
ça.
Ça
fonctionne assez comme ça. Voilà. Alors, je pense, heureusement, parce qu'on l'a quand même, précisons, pour l'instant, c'est seulement édité donc en version originale chez John.
Heureusement qu'on lit l'anglais.
Heureusement qu'on lit l'anglais et que finalement, les phrases de Chris Ware ne sont pas non plus très compliquées.
Non, donc, c'est pas.
Avec un niveau sommaire comme le mien, comprendre à peu près de quoi il retourne. Plus les images, évidemment, qui aident beaucoup. Mais ouais, moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans sa façon de raconter dans les histoires, c'est qu'il y a un côté. Toujours à moitié, enfin un peu bizarre quoi. Cette fleuriste, on lui confie un travail qui est un peu particulier, de garder la maison d'un couple qui est absent, une grande maison super riche, une villa. Donc elle accepte tout en se disant j'accepte parce que pourquoi, je me suis toujours un peu fait avoir dans la vie, je suis la fille sympa, je suis handicapée. Alors on me refile des tuyaux qui n'en sont pas sous prétexte de me filer un coup de main, mais ça en est pas vraiment un. Elle commence à s'embêter. Puis finalement le couple revient et l'embauche pour éduquer
jeune fille au père un peu. Enfin c'est pas au père, mais oui, la nurse, la nounou
du gamin.
Ouais.
Et donc fatalement elle va se mêler un peu de leur vie quoi. Finalement parce qu'elle est amenée à la partager alors qu'au début elle a connu cette maison vide. Ensuite elle les voit eux et toutes les relations sont assez, j'ai pas envie de dire biaisées, mais voilà, elle se pose des questions par rapport au père. Finalement elle découvre que sa femme le trompe. Elle découvre plein de choses qu'on découvre quand on est dans l'intimité d'une famille. Et puis il y a des choses qu'elle va découvrir aussi sur le petit gamin qui s'attache beaucoup à elle. Il y a des choses qui sont très près du dérapage limite du truc sitcom ou glauque.
Ouais.
Et ben je sais pas, c'est assez transfiguré par la façon de raconter, par les questions que se posent.
Mais on peut dire que un peu la manière de Jimmy Corrigan, c'est quand même un personnage un petit peu terne. Sauf que là, on est vraiment à l'intérieur de lui. Contrairement à Jimmy Corrigan, on était toujours en surface, on se disait quel pauvre type. Mmh. Alors que là, bon, c'est une fille un peu banale, à part le fait qu'elle ait une jambe en moins, un tibia en moins. Mais c'est super, le fait d'être à l'intérieur d'elle, d'être à sa place. Quoi.
Elle se demande toujours ce qu'elle a fait de sa vie, et en même temps, toujours en nous livrant des détails supplémentaires qui fait qu'on s'y intéresse de plus en plus. Quoi.
Il y a aussi un truc que je voulais dire par rapport à Jimmy Corrigan, c'est que c'est un personnage pathétique, mais ce qui est terrible aussi, même si on est cette fois-là. avec un narrateur extérieur, c'est que il y a des fois où on se reconnaît quand même, parce qu'on a tous eu des moments où on était con, on était lâche, on était,
on
tu vois,
revit des choses,
voilà. Et du coup, ce truc là, ça appuie sur le petit truc qui fait mal à chaque fois, je trouve, dans les Jimmy Corrigan. Et là, c'est pas le cas. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tendresse. Enfin, il y a pour son personnage là, on sent que contrairement à, je sais pas, toujours comparé à l'autre, mais contrairement à Jimmy Corrigan, on sent qu'il est là, il a de la sympathie pour elle, enfin qu'il y a
ouais, limite un espoir, parce que ça où... pourrait être terriblement dépressif.
On se demande même dans quelle mesure c'est pas quelque chose comme un autoportrait inversé, quoi, de sa part, quoi. Mais je sais pas, je connais pas personnellement. Non, mais on sait que, tu vois, Jimmy Corrigan, dans la préface qu'il a fait, il dit qu'il a mis beaucoup de lui aussi dedans, dans ce personnage-là. Donc, mais là, c'est pour ça qu'aussi que je compare avec Jimmy Corrigan, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de renvoi en négatif de l'un à l'autre, quoi. Je sais pas trop, mais
peut-être. Moi, j'ai pas lu Jimmy Corrigan, j'ai découvert Chris Ware avec ce livre.
C'est vrai,
ça fait
c'est
des années que tout le monde me dit que c'est génial, que tout ça c'est un virtuose, parce que comme avec du virtuose, c'est fatigant.
Je sais pas si c'est un virtuose, c'est un mec qui, je pense que c'est un gros bosseur surtout, et ça se voit. Alors,
ça doit être un gros nerd en fait.
Mais oui, je pense que c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis qu'il a dû, quand il parle des collectionneurs, il sait de quoi il parle. Je pense que c'est un mec qui a dû être comme ça.
Oui, parce qu'un mec qui pinaille pour que son livre sorte avec un dos toilé, avec un petit machin écrit comme ça dans
doré,
tel sens, des fausses coupures de journaux, des fausses publicités qu'il écrit lui-même, que machin. Ouais, ça doit être un gros bosseur.
Bah bon, de toute façon, là je pense que même si là, bon, pour l'instant on peut l'avoir qu'en anglais, l'anglais avec Novelty Library numéro 18, mais maintenant il commence à être bien traduit, bien édité en France. Il a été d'abord édité donc par Delcourt, maintenant édité par l'association. Et c'est des beaux bouquins. Et
je pense qu'il doit négocier aussi les contrats pour qu'on puisse pas leur éditer, comme par exemple chez Écriture Casterman, tu vois.
J'espère.
Cœur souple avec une typo horrible. Non, je pense que.
Non, mais je pense que oui, bien sûr. Tellement il est. Mais c'est bien, je trouve ça.
Ouais. Quelqu'un qui met la barre très haut. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui met la barre très très haut.
Chris Ware, la classe. On s'écoute un peu de.
Comment?
PJ Harvey après ça.
Ouais, on récapitule peut-être.
Ah oui, avant de laisser l'antenne, on peut récapituler. À moins qu'on ait le temps de parler encore de bande dessinée un petit peu après PJ Harvey.
Ouais.
C'est pas sûr. Bon, allez, on va déjà récapituler.
Ouais.
Ok, parce que voilà déjà Indépendance qui s'amène. Alors, on a parlé de quoi aujourd'hui? De La Gueule Ouverte, un vieux journal qu'on ne trouve plus en kiosque de nos jours, mais qu'on
peut peut-être trouver
70.
Chez les bouquinistes. Alors,
et à la Fanzinothèque.
Ah, à la Fanzino, ils en ont un stock, c'est vrai.
Consultable, faut prendre du pont neuf. On a écouté
Sam the Sham and the Pharaohs. Je sais plus le titre, Little Red Riding Hood, le petit chaperon rouge.
On a reparlé vite fait de l'essai d'Ingmar Grundstedt qui s'appelle Du chômage à l'autonomie conviviale, aux éditions.
La ligne d'horizon, pardon.
La collection La ligne d'horizon, à plus d'un titre édition, voilà. Ensuite, on a écouté.
Quelle émission bordélique.
Surtout être technique. Ensuite, on a écouté On n'est pas des chiens, la chanson de Brigitte Fontaine et Areski. On a parlé de l'excellente revue DVD La Famille Digitale, qui avait fait une soirée hier au cinéma Le Dietrich.
Et donc,
on peut retrouver sur le site internet lafamilledigitale.org. Je continue. On a cité même le film de Pierre Falardeau, Le Temps des Bouffons. Ensuite, nous avons écouté Catherine Garden Party, extrait de l'album 8e Ciel, et parlé de Chris Ware's Acme Novelty Library.
En particulier, le numéro 18 qui vient de sortir.
Voilà.
Il n'y a pas très longtemps. On a oublié de dire qu'on a parlé de Pierre Fournier, donc le fondateur de La Gueule Ouverte, dont un livre est disponible, enfin un recueil de ses dessins est disponible chez Les Cahiers Dessinés. Ça s'appelle Carnet d'avant la fin du monde. Et si vous avez un bon bouquiniste, vous pouvez peut-être trouver encore La vie des gens et Où on va, j'en sais rien, mais on y va, qui ont été édités par les éditions du Square. Voilà. Et donc, PJ Harvey.
Oui.
Waouh.
Wow.
Et bien, à la prochaine. Donc vous étiez sur Pulsar 95.9, c'était.
On est là pour ça.
Et à la semaine prochaine, j'espère qu'il y aura plus de monde la prochaine fois.